Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire, les températures restent chaudes, mais un peu plus respirables en France. L'épisode caniculaire historique prend fin dans une large partie du pays, mais la vigilance sanitaire demeure avec la crainte d'une forte surmortalité. Mais l'Europe centrale et orientale souffre globalement aujourd'hui de la canicule, où au moins 130 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée. À Gaza, une frappe israélienne a tué 3 civils et blessé plusieurs autres personnes aujourd'hui, malgré la trêve. Un Cisjordanien, un adolescent palestinien, a été tué par l'armée israélienne. Nous l'avons évoqué dans les titres, les températures restent chaudes aujourd'hui, mais un peu plus respirables. L'épisode caniculaire historique de 11 jours prend fin dans une large partie du pays, même si le risque d'orage persiste et que la vigilance sanitaire demeure avec la crainte d'une forte surmortalité. La vigilance orange canicule a été levée aujourd'hui dans toute l'Île-de-France et 9 départements de l'Est selon Météo France, mais qui maintient ce niveau d'alerte dans 3 départements du Sud-Est et la Corse. Mais l'Europe centrale et orientale souffre globalement aujourd'hui de la canicule, où au moins 130 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée. En Europe, la vague de chaleur a déjà fait de 1300 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en France, Santé publique France se comptabilise depuis mercredi environ 1000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent. Un premier bilan probablement voué à s'alourdir. Et le directeur général de la sécurité civile estime que le pire n'est pas forcément derrière nous. L'effet sanitaire de la canicule va continuer à se faire sentir. Il était invité ce matin chez nos confrères de RMC, Julien Marion, directeur général de la sécurité civile.
L'effet sanitaire de la vague de canicule, il va continuer à se faire sentir dans les jours qui viennent. On le sait, les organismes réagissent avec retard aux effets de la vague de canicule. Et donc on sait que cette semaine encore, pour encore 5 à 10 jours, on va continuer malheureusement à mesurer les effets de la vague de canicule que notre pays vient de connaître. La bonne nouvelle, c'est que les températures ont chuté, là qu'on est sorti de la vague de canicule. Donc on va pouvoir retrouver des conditions météorologiques un tout petit peu plus normales. Mais il faudra rester extrêmement vigilant. Et je pense en particulier en disant ça aux personnes âgées isolées. C'est d'elles qu'il faut s'occuper et se préoccuper maintenant pour savoir comment elles vont et pour aller prendre de leurs nouvelles. La vague de canicule que nous venons de connaître est derrière nous, heureusement et tant mieux. Dès ce soir, on se retrouve en cellule de crise autour du Premier ministre pour penser le coup d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on a un deuxième épisode de chaleur équivalent ou moins important qui vient frapper notre pays dans les prochains jours? Quels enseignements on tire, si je puis dire, à chaud de ces 10 jours de canicule qu'on vient de connaître?
Julien Marion, directeur général de la sécurité civile. Et comment adapter notre quotidien face à la chaleur? Les horaires de 9h, 18h sont-ils adaptés? Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé faire un voyage d'études en Espagne pour s'inspirer de leurs pratiques.
Je pense qu'avec les Français, avec le pays, il faut qu'on discute. Est-ce que le pays ne doit pas s'adapter lui-même en amont du monde du travail? Effectivement, les horaires 9h-18h sont-ils adaptés? On peut en discuter. Vous n'avez pas que ça. Toutes les finales de sport, on les fait en juin. Mmh. Si le mois de juin, il est comme un mois d'août et s'il est à 40 degrés, on voit bien que la pratique du sport, ça pose problème. Tous les grands festivals, c'est la même chose. Donc on voit bien les chantiers, on a tendance à les accélérer parce que d'habitude, en juillet-août, on ne peut pas travailler. Donc on voit bien que ces composantes de la société en amont du monde du travail, finalement, doivent être discutées. C'est pour ça qu'à partir de septembre, j'ai proposé aux partenaires sociaux d'engager un grand travail de réflexion. D'abord, on fera le retour d'expérience sur ce qui s'est passé juin, juillet, août, de manière très lucide. Et ensuite, et j'ai proposé d'ailleurs à l'invitation de la ministre espagnole du Travail que j'ai eu vendredi au téléphone, je lui ai demandé si elle était d'accord pour nous recevoir. Bien évidemment, elle a dit oui. Et donc, on va aller ensemble en Espagne. On va faire un voyage d'études et je vais proposer aux partenaires sociaux, bien sûr, de venir. On y restera deux ou trois jours, bien évidemment. Et on essaiera de comprendre comment la société espagnole s'est adaptée à la chaleur. Ils sont juste à côté. Il faut qu'on considère en fait que la France, l'été, ça devient l'Espagne.
Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Dans l'actualité au Moyen-Orient, à Gaza, une frappe israélienne a tué 3 civils et blessé plusieurs autres personnes aujourd'hui, selon les responsables d'un hôpital local, malgré la trêve en vigueur. Et en Cisjordanie, un adolescent palestinien a été tué par l'armée israélienne aujourd'hui, selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Et Israël a mené hier de nouvelles frappes dans le sud du Liban et ce aussi après la signature par les deux pays d'un accord cadre visant une paix durable. Le chef du Parlement libanais affirme qu'il ne sera pas adopté et le président libanais Joseph Aoun a affiché sa détermination à asseoir l'autorité de l'État en déployant son armée dans le sud où le Hezbollah pro-iranien est très implanté. Dans le reste de l'actualité, direction le Venezuela où les équipes de secours accompagnées de chiens renifleurs recherchent les derniers survivants après les deux puissants séismes de mercredi qui ont frappé le pays. Le bilan est passé à 1450 morts et des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Les États-Unis annoncent une aide de 300 millions de dollars. En Allemagne, 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées par balle aujourd'hui dans un centre d'aide aux jeunes à Stade, une ville du Nord. 2 suspects présumés, dont le tireur, ont été arrêtés, selon la police locale. En Ukraine, des frappes russes sur les villes de Dnipro et Zaporijja ont fait au moins 7 morts et plus d'une trentaine de blessés, selon les autorités locales. Dans l'actualité en France, c'est l'accident d'aviation légère le plus meurtrier du pays. Hier, 11 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Les victimes sont 5 moniteurs de parachutisme et 5 élèves qui devaient faire leur baptême et le pilote de l'appareil. C'est un choc ultime, a déclaré le directeur général de l'aérodrome de Nancy, Éric Taverne.
La météo était chaude, mais pas exceptionnelle. Donc nous, on n'a pas d'explication. Et c'est ce qui renforce, évidemment, pour des professionnels de l'aéronautique, comme il y a ici parmi le personnel de GNA, c'est l'incompréhension. Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi on ne l'a jamais eu, cette situation? Il n'y a jamais eu aucun accident au décollage ni à l'atterrissage ici. Et là, c'est effectivement le choc ultime, quoi, surtout avec un tel nombre de victimes.
Éric Taverne, directeur général de l'aérodrome de Nancy. Pour le 4e lundi consécutif depuis la mort de la jeune Liana, la mobilisation se poursuit en France à l'appel de la coalition féministe et enfantiste pour réclamer une loi intégrale contre les violences sexuelles, avec notamment un rassemblement prévu aujourd'hui à 19h place Vendôme devant le ministère de la Justice, ainsi que devant plusieurs tribunaux dans le pays. Dans un tout autre volet, le Parlement adopte définitivement une loi pour freiner l'essor de l'ultra fast fashion incarné par le géant chinois Shein avec ses vêtements bas de gamme à prix cassé et qui génèrent des montagnes de déchets. Et plus de 1,3 million de billets ont été vendus pour le premier jour de la fête du cinéma dimanche, soit 45% de plus que l'année dernière dans un contexte de forte chaleur. Et enfin en sport, le football africain est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire au Mondial 2026. Jamais le continent n'avait été aussi bien représenté en phase à élimination directe avec 9 sélections qualifiées pour les 16e de finale sur 10 après le départ de la Tunisie. Et si l'Afrique du Sud a été la première équipe africaine éliminée dans cette phase finale, tous les regards sont désormais tournés vers le Maroc qui défie cette nuit les Pays-Bas pour une place en 8e. On fait le point avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Nawel, l'Afrique n'avait jamais réalisé une telle performance en Coupe du Monde. Pour la première fois de son histoire, 9 des 10 sélections africaines engagées ont franchi la phase de groupe et se sont qualifiées pour les 16e de finale. Un record favorisé par le nouveau format à 48 équipes, mais qui illustre aussi les progrès du football africain sur la scène internationale. 5 sélections, le Maroc, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ont terminé à la 2e place de leur groupe, tandis que les 4 autres, la République démocratique du Congo, le Ghana, l'Algérie et le Sénégal, ont décroché leur billet parmi les meilleurs 3e. L'Afrique du Sud est toutefois la première nation africaine éliminée de cette phase à élimination directe. Les Bafana Bafana se sont inclinés 1-0 face au Canada dimanche sur un but de Stéphane Eustachio inscrit dans le temps additionnel. Solide défensivement pendant une grande partie de la rencontre, les Sud-Africains ont finalement cédé dans les derniers instants. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Maroc. Les Lions de l'Atlas affrontent les Pays-Bas dans cette nuit de lundi à mardi, avec un coup d'envoi programmé à 3h du matin, heure française. Cette affiche des 16e de finale est particulièrement attendue. Demi-finaliste du Mondial 2022, le Maroc espère prolonger son parcours parcours et continuer à faire vibrer tout un peuple. Face à une solide sélection néerlandaise, les hommes de Mohamed Wahbi tenteront d'offrir aux supporters marocains une nouvelle qualification historique.
Merci beaucoup Salma Dakhlaoui pour toutes ces précisions. Donc un coup d'envoi à 3h du matin pour les plus courageux. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.